L'amphi. L'amphi. L'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Alors aujourd'hui, on est avec les chroniqueurs et les copains pour vous partager plein de références culturelles, que ce soit des livres, des BD, des films, de la musique, des jeux ou encore des sites internet. Enfin bref, tout ce qui peut être culturel quoi. L'objectif de cette émission, c'est tout simplement de vous faire découvrir plein de trucs. Et pour cette émission partage culturel, je serai donc avec mes chroniqueurs Maxime, Maël, Merlin et Marie. Salut à vous.
Salut.
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 Alors Marie n'est pas encore parmi nous, mais elle va nous rejoindre incessamment sous peu. Et on est également avec Thomas de la Percée de l'Histoire. Salut.
Salut, bonjour, ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Très bien, merci beaucoup.
Ah bah, c'est formidable. Et moi-même, je vous ferai part de mes quelques conseils avisés. C'est parti tout de suite pour cette émission de partage culturel.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
Alors, pour la première catégorie, je propose qu'on commence par la littérature. Qui a des conseils à donner ? Enfin, quand je dis littérature, c'est bouquin, quoi. Alors, pas encore la BD, on va passer au BD juste après. Mais d'abord, juste en bouquin. Qui a des conseils à donner ?
Je n'en ai pas.
Ok. Ouais,
moi non plus.
Il y a que moi apparemment. Marie qui vient d'arriver, qui n'est pas encore au micro. Est-ce que tu as des bouquins à nous partager ou pas ?
Des bouquins, oui.
Ouais, super. Eh ben vas-y, on t'écoute.
Oula.
L'installation précipitée.
Bonsoir. C'est ça. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors en bouquins à partager, j'en ai deux.
Ok.
J'en ai deux. Alors j'ai un premier bouquin. C'était un bouquin que alors une bande dessinée en fait que je lisais quand j'étais petite.
Ok.
Et je trouvais ça assez intéressant à partager. On sait jamais si on a des petits frères ou des petites sœurs.
Alors c'est une BD du coup, c'est ça ?
C'est ça.
Bon, normalement c'était pour après, mais c'est pas grave.
Ah pardon.
Moi je voulais faire d'abord les livres et ensuite plus spécifiquement les BD. Mais
Sinon j'ai un livre.
Ok, bah vas-y, fais ton livre en premier.
Donc le livre c'est La Chamade de Françoise Sagan. Qui est un livre que j'ai lu cette année. Et alors, de cette autrice, j'avais déjà lu Bonjour Tristesse, que j'avais beaucoup aimé. Et La Chama, j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement touchant.
Ok.
Donc, qui parle un peu de, des personnes face à l'amour, en fait. Donc, dans leur vie amoureuse, qu'est-ce qui se passe en soi. Et je pense que tout le monde, en fait, peut se retrouver dans ce livre. Et il fait énormément réfléchir et en même temps il est touchant, il se lit très bien, il n'est pas très long. Donc je trouvais ça plutôt intéressant en fait, de le partager pour ceux qui aiment les romans justement.
Et puis c'est bien de faire découvrir Françoise Sagan qui est une grande figure de la littérature française féminine.
Oui bien sûr.
Alors si c'est tout pour ce qui est des livres, moi j'en ai quelques-uns. D'abord, j'ai La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Bougassar. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été le prix Goncourt 2021. Et c'est juste un pur chef-d'œuvre. En fait, c'est l'histoire d'un écrivain sénégalais, qui vit en France, et qui part à la trace en fait, d'un écrivain qui a écrit un livre mystérieux qui s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain. Et toute cette quête va le mener vers plein d'interrogations sur la littérature, mais aussi sur la vie. Et sur la considération des écrivains étrangers en France, enfin, ça mélange énormément de choses et c'est magistral. Quoi. C'est en même temps réaliste et en même temps fantastique, enfin, c'est super. Deuxième petit conseil, c'est les œuvres de Samuel Beckett. Voilà, Samuel Beckett, j'en ai déjà parlé dans cette émission, c'est mon écrivain préféré. C'est une littérature très bizarre, mais qui est vraiment incroyable à découvrir. Je vous conseille évidemment En attendant Godot, hein, sa pièce de théâtre la plus connue, mais aussi Fin de partie, qui personnellement est ma pièce préférée. Et son bouquin de lui que je préfère, c'est L'innommable, qui est un roman, parce que Beckett n'a pas écrit que du théâtre, il a écrit plein d'autres choses, et en particulier des romans, et donc L'innommable, je vous le conseille. Encore deux conseils lecture, les nouvelles de Roald Dahl. Roald Dahl, c'est celui qui a écrit Charlie et la chocolaterie. Ah, okay. Voilà. Et en fait, qui a écrit beaucoup de choses en littérature jeunesse, mais il a aussi écrit beaucoup de petites nouvelles, en fait, de recueils de nouvelles. Et ces nouvelles sont vraiment formidables. Voilà, je les conseille. Et pour terminer, La Maison des Feuilles de Danilowski. pour film, pardon, livre pour lequel j'ai consacré une chronique. Et donc La Maison des Feuilles, c'est une œuvre fantastique où le texte est mis dans tous les sens. Enfin, c'est n'importe quoi. T'es obligé de retourner le livre pour le lire. T'as plein de notes qui renvoient des trucs, des machins. T'as des enfin, c'est un truc de fou. C'est, ça prend la forme d'une fausse thèse sur un faux film. Enfin, il y a plein de strates de récits différents. C'est un labyrinthe en fait. C'est un labyrinthe et c'est génial de s'y perdre. Donc voilà, c'était mes conseils lecture. Forcément, je suis profus parce que moi j'adore lire. Donc j'avais plein de trucs à dire là-dessus. Et maintenant, on va passer plus spécifiquement à la BD. Alors, qui a des BD à nous conseiller ?
Là, pour le coup, j'ai quelques exemples. Après, c'est des exemples qui ne sont pas hyper originaux en ce qui me concerne, parce que c'est des trucs assez connus. Je pense notamment à une BD qui a fait mon adolescence, à savoir le Donjon de Nahelbeuk. Nahelbeuk, qui est réputé pour être très vulgaire, mais qui est très drôle, notamment pour justement le côté... le côté clash entre certains personnages, sachant que ça se joue beaucoup sur les mythes, sur par exemple un voleur, un ogre, un barbare, un nain, un elfe, etc. Donc vraiment tout ce qui est des contes et légendes, et donc les rassembler pour en faire un récit d'aventure de A à Z, et qui est vraiment très très bien. Et sinon, comme je disais, encore moins originaux, certains comics que je lis depuis pas mal de temps. Je pense notamment à New Avengers Evasion, où on suit donc les Avengers qui vont essayer d'arrêter des super vilains qui sont échappés de la prison, et du coup ça va partir sur des affrontements, ou même encore Avengers Secret Wars, qui est l'un des plus gros comics de Marvel qui existe, où il y a eu deux planètes, deux univers qui sont entrechoqués, et il y a Fatalis qui a créé un petit monde à lui, et certains Avengers vont essayer de libérer tout ça avec en affrontant d'autres ennemis sur la Battle World, et c'est vraiment titanesque.
Merlin, je crois que tu as des conseils aussi en termes de BD.
Oui, j'ai conseils BD et manga. Je sais pas si on fait les mangas tout de suite. Bah, je vais commencer directement du coup avec un manga qui s'appelle Sakamoto Day. C'est un manga que je trouve extrêmement drôle. Ça raconte la vie d'un ancien assassin qui s'est reconverti en épicier.
D'accord.
Et du coup, pour se marier, il s'est reconverti et son passé, à un moment, il va ressurgir. C'est un peu, moi je trouve que c'est un peu une parodie de certains films américains d'espionnage, par exemple Rambo, où il était parti, puis après il revient, assez drôle. Franchement, je vous le conseille.
Ok.
J'en ai deux autres. Là pour le coup c'est une BD, c'est Un maillot pour l'Algérie. C'est une BD qui va raconter l'histoire de plusieurs joueurs algériens pendant la guerre d'Algérie. Dont un de la SSE, mon équipe préférée, Rachid Merloufi. Du coup, lui, il va quitter la France alors qu'il avait du coup une carrière plutôt stable avec la SSE. Il va quitter la France pour rejoindre donc l'équipe du FNL, le Front de Libération Nationale. Et pendant quelques mois, du coup, il va jouer des matchs avec cette équipe et remporter plusieurs matchs. Il va jouer contre la Tunisie, des équipes du Moyen-Orient.
Ok.
Et la dernière... J'ai presque fini.
Non, vas-y.
La dernière, c'est La guerre de Lucas. Les guerres de Lucas.
Ah oui, je vois très bien.
Une BD que j'adore parce que déjà, je suis un grand fan de Star Wars. Alors, c'est du coup une BD qui parle du premier, des détails de l'avant et de l'après tournage du premier Star Wars et du pendant aussi. Donc, toutes les galères qu'il y a eu dans le tournage, toutes les anecdotes possibles et inimaginables qu'a pu avoir George Lucas. Et donc, franchement, c'est une très bonne BD aussi. Je vous conseille.
On imagine que ça devait être toute une aventure de tourner les Star Wars, quoi, à l'époque.
Franchement, là, c'est que le premier. Enfin, j'ai apporté la BD, elle est bien épaisse, quoi.
Ah oui, effectivement, oui.
Effectivement, elle est assez épaisse.
D'autres conseils BD ? Ouais, Maëlle ?
Oui, donc c'est plus manga, mais peut-être le plus connu des mangas, One Piece. C'est vraiment mon manga préféré. Donc, il a été écrit par Eiichiro Oda. Le premier tome, il est sorti en 1997, mais l'écriture, elle est encore en cours. C'est le 107e tome, est sorti il n'y a pas longtemps, donc il y a beaucoup de lectures. Donc ça raconte l'histoire de Luffy, un jeune ado qui rêve en fait de devenir le roi des pirates et donc de trouver le One Piece. Mais le One Piece, c'est un trésor dont personne ne connaît l'identité, mais on sait juste que c'est le plus grand des trésors à trouver. Donc, il n'y a que Eiichiro Oda qui ouais, connaît son secret.
C'est le grand mystère, ça. Qu'est-ce que c'est que le One Piece ? Est-ce qu'ils vont le trouver à la fin ? Est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose ? Mais il compte s'arrêter un jour, d'ailleurs, parce que c'est vrai que...
Je sais pas.
C'est sans fin, en fait, quoi.
Il commence à vieillir un peu. Je sais pas exactement quel âge il a, mais ça va s'arrêter un jour, quoi.
Vous savez qu'il finisse avant de mourir, quand même. Ouais. Ce serait con de laisser son œuvre inachevée. Bah écoutez, si c'est tout pour les BD, moi c'est pareil, j'ai quelques conseils. Je peux commencer par... Bon, je vais passer peut-être sur Blast de Manu Larsonnet, parce que j'en ai parlé plein de fois dans cette émission. Voilà, allez lire Blast de Manu Larsonnet, c'est exceptionnel. Je vais du coup vous parler plutôt de Certains Lèmes Noirs de Foerster. Alors, Certains Lèmes Noirs, c'est une anthologie de BD de 4-5 pages d'un mec qui s'appelle Philippe Foerster et qui fait de la BD d'horreur en noir et blanc, mais c'est de l'horreur un peu comique, tu vois, c'est un humour sordide, tu vois, un humour en noir et tout, et c'est magnifique, et graphiquement c'est génial, et le mec a une imagination de taré, donc vraiment c'est assez exceptionnel, Certains Lèmes Noirs de Foerster. Autre conseil qui n'a rien à voir pour le coup, c'est Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Alors Calvin, en fait, c'est un petit garçon qui a éternellement 6 ans. Il y a 24 tomes de la BD. Dans chaque tome de la BD, t'as un Noël, mais dans toutes les BD, il a 6 ans quand même, tu vois. Donc bon, il grandit pas. Et il a une peluche tigre qui l'imagine être son meilleur ami et tout ça. Et en fait, voilà, c'est un petit garçon qui a une imagination débordante. Et tu le suis à travers ses délires de gosse, etc. Et à la base, c'est censé être une BD pour enfants, on va dire, mais c'est une BD qui est tellement intelligente, qui aborde des questions tellement profondes, tellement philosophiques, que vraiment, en tant qu'adulte, ça se lit très très bien, quoi. Et puis, au niveau du dessin, c'est pareil, c'est une masterclass. Un dessin assez simple pourtant, mais qui est vraiment très bien maîtrisé.
C'est du noir et blanc aussi,
Du noir et blanc, mais alors c'est du noir et blanc un peu différent, dans le sens où Foerster, t'as vraiment une grosse dominance du noir, ouais. Quoi. Ah ouais. Alors que chez Bill Watterson, c'est plutôt blanc, quoi. C'est plutôt blanc, et puis il y a des tracés noirs, quoi. Pour finir, ouais, je ne vais pas tous les faire parce que j'en avais noté beaucoup. Edika, qui est un auteur phare des éditions Fluide Glacial. Et alors, Edika, c'est un auteur comique pareil, mais qui fait de l'humour complètement déjanté, de l'absurde, rien n'a de sens. Enfin, sa formule phare, c'est le blue goo à sens giratoire inversé. Voilà, ça ne veut rien dire, mais c'est pour ça que c'est drôle, les personnages ont des têtes pas possibles. Donc voilà, je conseille Edika si vous voulez vous marrer, c'est très très bien. Alors on va passer maintenant à une catégorie un peu plus spécifique, que j'ai dérivé de la BD en fait. Je me suis dit qu'on pourrait parler de peinture ou d'art graphique en fait. Est-ce que vous avez des références là-dessus ?
De l'art en général ? Wow.
L'art graphique plutôt, que tout ce qui l'art va être graphique. Dessin, peinture, tout ça.
Intéressant. Bonne question.
Vous en avez pas ?
Non. Il y aurait toujours éventuellement alors, les peintures de Van Gogh ou même des... Je fais référence à ça parce que je sais qu'on en parlera plus tard, mais qui peuvent aussi inspirer des films que j'ai en tête.
Du coup, là, on en parlera dans la partie film. Ouais,
ouais, c'est ça. Mmh. Mais les peintures de Van Gogh sont très inspirantes. Les classiques, enfin, je veux dire. Ce soit
alors je vais pas t'aider parce que je suis pas un spécialiste de Van Gogh,
De Vinci ou autre, enfin voilà, il fait partie des œuvres, des artistes les plus célèbres dans la peinture.
Alors moi j'ai trois noms quand même qui commencent tous par B, et le premier c'est Bosch. Je suis sûr que vous savez tous ce que c'est que les tableaux de Bosch, même si vous ne l'avez pas forcément en tête quand je vous dis non. En fait, c'est celui qui peint les tableaux avec, tu sais, beaucoup de détails, beaucoup de personnages. Il a peint notamment l'Apocalypse, la tentation de Saint-Antoine, et en fait, beaucoup de sujets bibliques, mais toujours avec une vision très noire, beaucoup de monstres, de démons et tout ça. Et c'est juste, ça fourmille de détails. Et c'est une vision qui est vraiment très cauchemardesque et très atypique, que tu vois que chez lui, quoi. Donc voilà, Gieronymus Bosch. Deuxième peintre dont je voulais vous parler, c'est Francis Bacon, qui est beaucoup plus contemporain. Lui, il peignait au XXe siècle. Et alors lui, il avait une façon très particulière de peindre les corps. C'était très déstructuré. Il y avait vraiment une concentration sur la chair, mais déformée, tout ça. C'est pareil, c'est très noir. Enfin, moi, j'aime bien la peinture quand c'est très noir, très sombre et tout ça. Et donc Francis Bacon, voilà, si vous aimez les trucs un peu dark, un peu glauque, allez voir, parce que c'est fameux. Ça inspirait pas mal de gens dans le cinéma d'horreur, je pense. Et pour terminer, et lui aussi, il a inspiré beaucoup de monde, c'est Beksinski. Alors lui, je pense que vous ne voyez pas qui c'est.
Non, vous non, avez pas ça dit... me dit rien.
Ah bah alors, c'est un mec, moi je ne connaissais pas non plus, je l'ai découvert sur Instagram, et c'est juste un... C'est un truc de fou. Je pense qu'il a inspiré énormément le cinéma d'horreur fantastique, parce qu'en fait, il ne crée que des peintures dans des univers fantastiques, mais ouais, fantastiques un peu dark, tout ça, un peu apocalyptique, mais en même temps, pareil, avec beaucoup de monstres. C'était assez Lovecraftien, en fait. Et c'était vraiment mais somptueux, quoi. C'était grand, c'est grandiose, c'est superbe. Et ça fait peur. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est de l'horreur lyrique, on va dire. Et Lovecraftien, ouais, vraiment. Donc voilà, je vous conseille ça. Bacon, Bosch et Beksinski. Si vous n'avez rien à rajouter dans les arts graphiques, je vous propose qu'on fasse une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Mammal Hands et Dorian Dumont, le 28 mars au Sonia, en appelant au 02 43 24 37 38. Et on se retrouvera tout de suite après dans cette émission pour parler de cinéma, de séries et de musique. Tout de suite, on écoute Ladies Night, Cool and the Gangs, choisi par Thomas. De retour dans l'amphi pour la suite de nos partages culturels, je suis toujours avec mes chroniqueurs Maxime, Marie, Maël et Merlin, ainsi que Thomas de la percée de l'histoire. Alors, on vous a fait des conseils lecture et peinture, et on va passer maintenant au cinéma. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer dans cette sélection ?
Alors, moi, du coup, j'aurais des recos, notamment, en animation, notamment bah, ouais. le film d'animation, films d'animation polonais par les mêmes réalisateurs l'un l'autre, La Passion Van Gogh, donc un film d'animation ouais. tout en peinture, qui s'inspire justement de la vie de Van Gogh, quelquun qui enquête sur Van Gogh. Et autant l'histoire que l'animation, c'est magnifique, c'est ouais. vraiment, c'est troublant. Et pareil pour le suivant qui s'appelle
juste le film sur Van Gogh. En fait, c'est animé comme des peintures de Van Gogh.
C'est vraiment, c'est peintures peintes à la main et c'est vraiment animé. C'est vraiment sublime. Ça s'appelle La Passion Van Gogh. Et le deuxième qui est au cinéma actuellement, qui s'appelle La Jeune Fille et les Paysans.
Ok.
Et c'est pareil, c'est les mêmes réalisateurs et on suit pour le coup une un père de famille qui a des terres et son fils veut récupérer certaines terres et au parallèle il y a une jeune femme qui un peu attire les convoitises ouais, qui est très belle et tout ça, qui attire les convoitises et on va suivre un peu cette jeune femme et c'est vraiment l'animation est sublime, c'est vraiment magnifique aussi.
Et du coup pareil, c'est en s'inspirant d'un style d'un peintre particulier ou pas spécialement là
je saurais pas dire, mais c'est vraiment une peinture un peu à l'ancienne.
D'accord.
C'est vraiment sublime, c'est à voir au cinéaste, c'est vraiment magnifique.
Ok. Tu sais quand ça passe au cinéaste?
Là c'est sorti je crois
d'accord.
mercredi.
Ok d'accord, ça marche, voilà. Pas super. Et ben allez voir ça au cinéaste. D'autres gens qu'on a conseillé? Ouais Maëlle.
Oui, bon, je suis désolée, je suis pas très originale, mais j'ai découvert un film l'été dernier. Donc le film, il date un peu, c'est Léon, il est sorti en 1996, c'est un film de Luc Besson. Et dans ce film, en fait, c'est Jean Reno, il incarne un tueur à gages qui s'appelle donc Léon. Et il prend sous son aile Mathilda, une petite fille de 12 ans, qui est la rescapée, en fait... d'un meurtre où il y a toute sa famille en fait, qui s'est fait tuer par un drogué fou. Et donc après, Léon, il va essayer que Mathilda devienne une nettoyeuse, comme il dit, pour qu'elle puisse venger son petit frère, parce qu'elle en veut vraiment aux drogués qui ont tué son frère.
C'est quoi une nettoyeuse? C'est une tueuse, du coup?
Ouais, ça, mais c'est dans le film, Léon, il dit nettoyeur pour pas faire peur, ouais, d'accord, etc. Ouais. Et donc c'est vraiment mon film préféré, je l'adore parce qu'il y a de l'action, des émotions et même certains moments drôles, donc j'aime beaucoup ce film.
C'est ce film où Léon il a des petites lunettes rouges et un
ouais,
bonnet,
c'est ça. Ça.
Ah bah,
c'est ça.
Je vois, je l'ai pas vu mais je vois ce que c'est.
Ouais. Il est super.
Ouais, ouais. Je te conseille.
Mmh. Oui, tout le monde a dit du bien de ce film-là. Est-ce que d'autres ont des conseils cinéma? Thomas, vas-y.
Des conseils.
Alors, ouais, ton micro, il est un peu
ouais,
bas, je sais pas
mon micro, il est bas. Ouais.
Il tient pas. Ouais, bon bah, tu vois la main.
Et alors, la première recommandation, c'est le film 3 qui est sorti en 2004.
Avec Brad Pitt, c'est ça?
Avec Brad Pitt et Orlando Bloom. Bon, je pense que beaucoup l'ont vu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, franchement, c'est un très bon film qui a très bien vieilli déjà.
Ok.
Parce que je ne le trouve pas. J'ai encore regardé récemment, hein, c'est pour ça que je te le dis. Et vraiment, je l'ai trouvé super, tant au niveau de la réalisation, tout ça, du jeu d'acteur. C'est pas nanar, ni rien. Et franchement, il y a eu un travail formidable sur la musique.
Okay.
Les musiques de ce film sont incroyables. C'était un compositeur allemand, il me semble. Je me rappelle plus de son nom. Et le pauvre monsieur est mort l'année dernière.
Ah.
Oui. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre,
okay.
tant musical que au niveau de l'histoire. Alors l'histoire, c'est très simple. Ça reprend le poème homérique de l'Iliade.
Mm.
Voilà, tout simplement.
Et ça le respecte bien du coup, ou il y a des écarts comme dans tous les films
Je pense qu'il doit y avoir des écarts. Franchement, j'ai pas lu l'Iliade.
Ok.
Donc je pense qu'il doit y avoir des écarts. Donc normalement, ça doit peut-être se perdre un peu. Mais en tout cas, quand on regarde le film, ça n'entache pas le.
Ouais.
La continuité, tu vois. Il n'y a pas une scène où là, tu te dis, c'est bizarre qu'elle soit là, tu vois. Qu'elle soit rajoutée. Mais vraiment, ça suit le truc.
Il n'y a pas la bonne fée qui se ramène en hélicoptère à un moment.
Non, là, on n'a pas de ça. Et okay. Franchement, c'est super.
Ok.
Et aussi, une dernière recommandation qui me tient à cœur. Et ici, je dédicace ça à ma mamie, parce qu'on adore tous les deux. C'est les comédies de Louis de Funès.
Ah, ok.
Oui, parce que Louis de Funès, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien son humour. Ça, il me parle, son humour. Et il me fait bien rire, parfois, notamment avec son duo avec Bourville dans La Grande Vadrouille,
okay. hein,
qui est très connu, mais qui fait mouche.
Ok.
Alors, autant le papy, il ne peut pas le supporter, mais la mamie, elle est et je suis d'accord avec elle.
Ça marche. Alors, Marie, je crois que tu avais des conseils aussi.
Oui, alors j'ai quatre films à peu près à présenter, je vais assez vite. Donc d'abord, il y a L'amour existe, qui est un film, un court-métrage de Maurice Pialat, et que alors, j'avais trouvé excellent parce que donc il parle de la vie en fait dans les cités françaises post-guerre, alors ça se passe surtout dans les années 60, et comment la classe moyenne en France vit dans ces nouvelles cités en fait très bétonnées où au final c'est un nouveau mode de vie qui se met en place, une nouvelle classe sociale qui arrive, et ces gens-là qui font en fait, qui ont une vie métro boulot dodo, et comment est-ce qu'ils perçoivent ça, comment est-ce que le réalisateur aussi perçoit cette vie-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est touchant en fait de voir ces gens qui basent toute leur vie sur le fait de travailler pour avoir une salle de bain toute nouvelle dans leur maison. Et j'ai trouvé que c'était un très joli film. Et puis bon, ça dure que 20 minutes. Donc
ah oui, d'accord, c'est un court-métrage.
C'est très court.
Il est sorti quand ?
Il est sorti, je crois, en 65, il me semble.
Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment contemporain des événements.
Oui, c'est ça, exactement.
Et tu peux le voir où, ce truc-là ?
Alors, je l'avais vu sur France TV il y a peut-être 3 mois environ.
D'accord, ouais.
Donc, en plus, c'est gratuit, en fait. Hein, donc,
tu peux rappeler le titre ?
C'est pas mal. C'est L'amour existe.
D'accord. Et donc, du coup, tes autres films ?
Alors, mes autres films, il y a De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. C'est un titre qui est assez long. Je l'avais vu au cinéaste l'année dernière et c'est un film qui parle d'une famille, une mère qui élève seule ses deux filles. Et la plus petite de ses filles est passionnée de science et justement va faire une expérience sur les marguerites qui poussent à cause des rayons gamma.
Ouais.
Et sa mère est relativement pauvre, elle vit dans un milieu familial qui est assez pauvre et elle essaye un peu de sortir de ce schéma social qui veut qu'elle ne réussisse pas parce que sa famille a un peu de mal à s'en sortir, etc. Et c'est un très joli film qui est très poétique et qui est en même temps assez féministe parce qu'au final, il n'y a pas vraiment d'hommes qui ont un rôle important dans ce film. Donc voilà. Et alors, je vais aussi vous parler de Virgin Suicide, qui est assez connu, un film de Sofia Coppola, qui est donc un film qui retrace la vie d'une famille où il y a beaucoup d'adolescentes et comment est-ce que les garçons, les ados voient ces filles-là.
Okay.
Et le fait qu'en fait ils les perçoivent comme des simples symboles de désir, alors que elles, c'est des filles qui ont des rêves, qui ont des compétences, des envies, tout ça. Et tout le film en fait se base sur le point de vue de ces garçons-là. Donc comment est-ce que ces camarades de classe voient ces filles comme une sorte de filles absolument sublimes, etc. Alors que pour elles c'est pas du tout ça qu'elles qu'elle renvoie.
Leur priorité.
Oui, sinon c'est ça exactement. Et puis le dernier film, c'est Hiroshima, mon amour. J'ai un trou noir total sur le réalisateur, pardon, mais qui est un très joli film qui se passe au Japon pendant la guerre, donc sur une Française qui part au Japon, qui va tomber amoureuse d'un Japonais. Et je vous en dis pas plus, sinon c'est un peu du spoil, mais
et qui est adapté d'un livre de Marguerite Duras.
Exactement. Exactement. Et c'est un très très joli film. Très beau.
Ça marche.
Alors, le réalisateur, pour information, c'est Alain René.
Oui, d'accord.
C'est okay. Ça, merci.
Ok. Oui, grand réalisateur, effectivement. Mais écoute, je ne connais pas l'histoire non plus, parce que je sais que ça vient d'un livre de Duras, mais je ne l'ai pas lu. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre encore a un conseil niveau cinéma ?
Je sais pas si les autres avaient des récos, mais si...
Merlin, tu voulais dire un truc
peut-être ? Un très très court. Hein.
Ok, vas-y.
Très peu original aussi, mais juste Star Wars.
Juste Star Wars.
Regardez Star Wars.
Tous les Star Wars, y compris la dernière
trilogie ? Non, pas la dernière trilogie.
D'accord,
on est
d'accord. Bon. Et Maxime, si vous voulez ajouter quelque chose.
Non, là j'en aurais pas assez, mais j'ai un exemple qui me vient en tête, qui est un film qui est très peu connu, qui a fait beaucoup parler à Gérard May, au festival de Gérard May en 2022 parce qu'il a eu le Grand Prix. C'est le film Ego, donc écrit et réalisé par Anna Bergholm. C'est un film finlandais qui est très féministe aussi parce que du coup les hommes sont très peu présents et sont très notamment un des personnages masculins, c'est vraiment, s'il serait pas là, ça changerait rien, mais ça sert l'histoire. Et en fait, on suit Tinia, qui est une jeune fille de 12 ans, qui fait de la gym, mais qui est, où la mère exerce sur sa fille un espèce de perfectionnisme malsain.
Ouais.
Et un soir, en se promenant dans la forêt, Tinia va tomber sur un œuf de corbeau qu'elle va décider de couver dans sa chambre. Et sauf que ce qui va en sortir à l'éclosion, c'est une créature inquiétante entre oiseau et enfin homme oiseau, enfin un truc mais vraiment assez horrible à regarder, mais qui va évoluer en fait, qui va changer de corps, enfin qui va son corps va évoluer physiquement, okay, quoi.
D'accord.
Et qui va voilà, ça va être un peu l'espèce de double.
Ça va sur Shadows des fois.
Aussi oui, c'est aussi sur Shadows, ouais, okay. Mais j'ai eu l'occasion de le voir à Gérardmer et c'est okay. Trop bien.
T'étais à Gérardmer, t'as du bol, toi.
Ah, j'ai eu cette chance, ouais. C'est...
Alors moi aussi, j'ai un petit conseil en cinéma, c'est L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen. Alors adapté d'un livre, mais je ne sais plus de qui est le livre. Et voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust. Voilà, c'est un film que j'arrêtais pas de regarder quand j'étais gamin, qui me faisait très peur, mais j'adorais le regarder quand même. Ouais, c'est génial. Il y a plein, c'est dans un univers complètement fantaisiste, mais qui a une identité bien à lui et qui est très kitsch, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est ouais, c'est ça, c'est vraiment du kitsch Madeleine de Proust, quoi. Tu retombes en enfance et le loup est terrifiant.
Est-ce qu'on l'avait
oui, on était allé le voir, okay, oui, quand on était à l'école, on était allé le voir au cinéma, tout à fait,
je
Thomas.
Je m'en souviens.
Effectivement. Donc, voilà, je vous le conseille. Après bon, je pense que si je l'aime autant, il y a sûrement un côté nostalgie. Alors je sais pas si vous le découvrez à 20 ans, peut-être que ça charme moins, j'en
je
sais rien.
Je l'ai pas vu.
Voilà, je le conseille quand même. On se dirige à présent vers les séries. Qu'est-ce que vous avez en stock dont vous voudriez nous parler?
J'en ai deux.
OK.
D'abord, Desperate Housewives.
D'accord.
J'ai été très surpris. Au départ, quand je voyais ça à la télé, je me disais, bon, ça n'a pas l'air bien. Ouais. Mais finalement, dès qu'on va là-dedans, on s'y prend. Alors, c'est l'histoire de tout simplement d'un quartier, d'une résidence, de banlieue, tout simplement. Et en fait, comme son nom l'indique, on suit le point de vue de toutes les femmes du quartier, principalement. Et en fait, elles vivent des aventures, tout ça. Enfin bon, je ne spoil rien, mais c'est vraiment super prenant à regarder parce que ce que cette série, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on passe du rire aux larmes très vite. Et
d'accord.
Parfois, dans un même épisode, on peut rigoler, mais comme pas possible, se fendre la poire au début de l'épisode et à la fin, chialer comme une madeleine. Parce que vraiment, la mise en scène, les musiques, encore une fois, sont bien faites. Et j'ai bien aimé l'histoire. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Donc franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je recommande. Et la deuxième, c'est La Servante Écarlate.
Ah oui, d'accord.
Que j'ai adoré aussi. J'ai regardé ça avec ma maman et c'était super. Donc là, on suit alors, c'est pas une utopie, c'est l'inverse.
Une dystopie.
Merci. Une dystopie où les États-Unis se sont effondrés et il y a un régime autoritaire basé sur la religion qui s'est mis en place dans un contexte de crise économique et de baisse de la fertilité mondiale. Et donc, on a des...
Faut réarmer le pays démographiquement.
C'est un peu ça. C'est exactement ça.
Et bam.
Comme il y a des femmes qui sont devenues infertiles, et des hommes aussi, eh bien, on va sélectionner d'abord les femmes qu'on pense être capables de procréer. Et on va les attribuer dans des familles. On va les appeler les servantes.
Ouais.
Elles seront en rouge tout le temps. Donc, d'où le nom. Servante écarlate. Et on va suivre l'une d'entre elles. Et on va suivre le quotidien d'une de ses servantes dans cette Amérique dystopique où aucune liberté n'est admise, ni pour les servantes, loin de là. Et on parle même de... Là, c'est presque du commerce, même pas du commerce, mais de la soumission sexuelle.
Oui, de l'esclavage sexuel. Quoi.
Voilà, exactement, je cherchais le mot. Parce que, en fait, tout le lore est basé sur un pauvre verset de la Bible, où, en fait, bon, je vous la fais courte, mais il y a une dame qui s'appelle Sarah, il me semble. Elle autorise son mari à coucher avec la servante parce qu'elle, elle n'est pas fertile.
Ah oui, d'accord.
Et de là, tout le régime est basé sur ça.
Ah oui,
c'est
d'accord.
Très impressionnant, mais je vous le conseille parce qu'on a... On a de belles histoires et encore une fois, pas trop de longueur.
Et encore une fois, adapté d'un roman de Margaret Atwood.
Il n'a pas été aussi adapté en film ou en truc comme ça
Peut-être. C'est... C'est un gros succès, hein, de toute façon, ce bouquin. Donc oui, c'est possible qu'il y ait plusieurs adaptations. Niveau série.
Alors moi j'en ai plusieurs, mais je vais, y en a une qui me vient en tête, parce que c'est vraiment ma préférée tout court, c'est Penny Dreadful, créée par John Logan, qui est notamment scénariste de Skyfall et Spectre, donc James Bond avec Daniel Craig, également scénariste de Gladiator, pour ne citer que. Et en fait cette série, on va suivre, ça se passe à Londres dans les années 1890 notamment, où on suit un groupe de personnages qui sont pour la plupart inspirés notamment de personnages de romans de littérature fantastique. Il va y avoir Victor Frankenstein et sa créature, il va y avoir Dracula, il va y avoir des sorcières, enfin voilà, il va y avoir tout ça. Et on va suivre ces personnages qui vont essayer de s'entraider à affronter des méchants tout en combattant aussi leurs propres démons, leurs propres souvenirs, leurs propres failles sur les erreurs qu'ils ont pu commettre. Et c'est beau, et en même temps c'est beau dans le sombre en fait, parce que c'est très, ça fait très Burton, ça fait un peu Burton.
Tu peux rappeler le nom, pardon ?
Penny Dreadful.
D'accord.
Parce que, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait le titre de la série, il est inspiré aussi des petites revues horrifiques pour ados de l'époque qui coûtaient un penny à l'époque. C'est pour ça Penny Dreadful. Et c'est de là, donc là il y avait Dracula, il y avait tous ces personnages là qui pouvaient être créés à ce moment là.
Alors, on va falloir qu'on accélère un peu parce que j'aimerais bien qu'on parle de musique avant que Marie doive nous quitter parce qu'elle doit partir un peu plus tôt. Je vais juste dire les noms de celles dont j'avais prévu de parler. Donc, il y a Breaking Bad, Better Call Saul, voilà, évidemment, c'est très connu. Black Mirror, pareil. Fargo, qui est beaucoup moins connu, mais que je conseille également. Rick et Morty, qui est une série d'animation.
Ah ouais, incroyable.
Et alors, c'est pas tout à fait une série, mais RuPaul's Drag Race, voilà, c'est une compétition de drag queen, c'est excellent. C'est un peu dur de rentrer dedans quand tu connais pas l'univers drag, mais une fois que tu y es, c'est génial. Alors, on va passer. Ouais, c'était la Formule 1 là. Alors, on va passer maintenant à la question musique. De quoi est-ce que vous voulez nous parler ? Je commence par Marie pour que tu puisses être libérée juste après.
Alors, donc j'ai quelques albums à présenter. Donc, j'ai déjà parlé dans certaines de mes chroniques. Il y a d'abord l'album Under No Pressure de Joy Division, qui est un album sorti en 79. En fait, ils ont fait que deux albums, donc c'est le premier, qui est un album excellent. Alors, c'est assez sombre. C'est un genre musical qui est un petit peu gothique, je dirais. Et toutes les chansons sont juste excellentes. Il y a parfois l'utilisation d'outils comme un pchit pour faire un bruit de fond dans une certaine musique. Et juste tout l'album est excellent, mais toutes les musiques. Et donc c'est assez dingue. Donc voilà, okay, la musique, bah c'était intéressant à partager. Après, il y a l'album Grace de Jeff Buckley. Il me semble, je crois que c'est ça. Je crois que c'est son seul album parce qu'il est décédé très tôt.
Club des 27.
Non,
c'est même pas Club des 27. Même avant
Non, je crois qu'il est mort à 29, il me semble.
Ah d'accord, autant pour moi. Je crois qu'il faisait partie du Club des 27, Jeff Buckley.
Presque. et qui est un album qui est très doux en fait. C'est donc dans cet album-là, il y a la chanson très connue Alléluia, qui pour le coup ressemble pas tellement à tout le reste de l'album, mais c'est la voix de Jeff Buckley est exceptionnelle. Donc c'est vrai que ça berce un peu tout l'album. Il est très intéressant musicalement et je pense que tout le monde, en fait, peut trouver une chanson qui lui plaît dans cet album-là. Donc, je vous conseille forcément de l'écouter. Et après, alors ça, par contre, c'est un album un peu différent. C'est Première consultation de Doc Gynéco, qui était un album que j'avais découvert au collège et qui, je trouve, est un album assez drôle, en fait, parce que, c'est Doc Gynéco, quoi. C'est pas non plus de la grande littérature. Mais ça permet en fait de rentrer dans le rap français un peu des années 90, d'avoir certaines bases. Et les chansons ont un super rythme en fait. Les musiques sont trop bien et assez drôles. Donc voilà, c'est un album que je conseille.
Eh ben merci beaucoup Marie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient conseiller des albums, des musiques, des artistes ? Ouais. Maëlle ?
Alors oui, j'en ai deux. Je vais commencer par Orelsan, c'est vraiment mon rappeur préféré. Je suis fan de lui donc, parce que déjà ses textes je les trouve juste sublimes. Par exemple dans la chanson Note pour Trop Tard, qui est par ailleurs ma chanson préférée, il dit qu'après un événement tragique, il n'y a rien à faire à part être présent, panser les plaies, changer les pansements, le seul remède c'est le temps. Enfin, je sais pas, je trouve c'est... Enfin, j'aime trop ce qu'il dit. Après dans son dernier album, il change un peu, on sent qu'il est plus mature. et il va plus se livrer intimement. Par exemple, dans la chanson Athéna, il parle de sa femme, ou dans la chanson Nous contre le monde, il va parler de sa difficulté à avoir un enfant.
Ok.
Donc voilà, c'est tout pour Orelsan. Donc je vous conseille vraiment, c'est... Enfin bref, j'adore cet artiste. Et aussi L'Homme Pâle, qui est un peu dans le même style d'Orelsan. C'est du rap, mais c'est pas le rap boum boum. C'est, c'est plus doux, c'est plus calme.
C'est presque chanté, L'Homme Pâle.
Ouais, c'est ça. Et donc, L'Homme Pâle, il parle principalement d'histoires d'amour qui ont mal tourné. Par exemple, dans ses deux chansons les plus connues, qui sont Trop Beau et Décrescendo. Avec, d'ailleurs, dans Décrescendo, l'accompagnement au piano, il est juste incroyable.
Elle est incroyable, cette chanson, effectivement.
Ouais, elle est trop bien.
Moi, la première fois que je l'ai écoutée, j'avais des frissons, quoi.
Ouais, tu prends une claque quand tu l'écoutes. Donc voilà, j'aime beaucoup ses musiques, malgré qu'elles soient un peu tristes.
C'est tout pour les musiques Ah non.
Vas-y,
Thomas.
Merci. deux recommandations. Oui, deux recommandations.
Allons-y.
Et après, je m'arrête.
Oula.
Je vais aller vite.
Ouais, faut aller un petit peu.
D'abord, l'album Sauver l'amour de Balavoine, okay. Que je trouve excellent, excellentissime. En fait, ce que j'aime chez Balavoine, c'est surtout ses textes.
Ah, tu vas plaire à Jean-Yves.
Oui, c'est un point commun que nous avons. C'est que vraiment, ses textes, je les trouve formidables. Et dans cet album, c'est vraiment la quintessence, notamment Sauver l'amour, donc, et Petit homme mort au combat, qui sont super.
Ok.
Une deuxième recommandation, vas-y. C'est Johnny Hallyday, le seul, le fameux. Un album pas très connu qui s'appelle Le Survivant.
Ok.
Que j'adore. En fait, je l'écoute depuis que je suis gamin et je ne m'en lasse jamais. Donc, c'est sympa. C'est un peu rock, un peu tout ça. Enfin, c'est du Johnny, quoi. Et enfin, pour terminer, un style musical, la synthwave.
Okay.
Alors, qu'est-ce que c'est que la synthwave? C'est finalement une espèce de loop sur les années 80 et notamment au niveau du synthé, où le synthé est très présent dans ces musiques-là. Et on a une multitude de sous-courants et machin, il faudrait 4 heures. Mais je vous le conseille, donc de la synth comme synthé, synth, wave,
okay.
Vague en anglais. Très bien.
Ça marche. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose rapidement?
Alors oui, j'ai deux groupes hein, qui me viennent en tête, notamment donc, mon groupe d'enfance, Simple Plan.
Ouais.
J'ai fait vraiment mon enfance, que ce soit pour leurs chansons Astronaut ou même d'autres chansons qu'ils ont fait. Mais c'est vraiment un rock qui, moi, me parle et qui a vraiment rythmé une bonne partie de mon enfance. Et ensuite, qui a fait aussi un groupe qui a fait une partie de mon lycée, qui continue aujourd'hui, c'est Nightwish.
Okay.
Le groupe Nightwish, qui a groupe de métal finlandais et qui est...
Métal lyrique un peu, quoi.
Ouais, voilà, c'est très très beau et c'est vraiment très très bien.
Ok, eh bien écoutez, alors moi j'avais plusieurs conseils, mais je vais un peu passer dessus parce qu'on n'a pas trop le temps là. Mais du coup, je voulais vous parler de Brigitte Fontaine et Rebecca Warrior, voilà, les deux meufs les plus cool de la Terre. Allez écouter ça. Et d'une chanson aussi, I'm Piqué Unplugged de Chaka Ponk, qui est en fait un peu leur adieu à leur public puisque le groupe se dissout. Donc I'm Piqué, c'était un de leurs succès. De l'album The Geeks and the Jerking Socks, et ils en ont fait une version plus douce, plus calme, voilà, pour dire au revoir au public. Et on l'écoute tout de suite. Pendant qu'on l'écoute, vous pouvez gagner des places pour Mammal Hands et Dorian Dumont le 28 mars au Sonir en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, c'est Chaka Ponk, I'm Piqué Unplugged.
I'm Piqué, where all the girls are driving crazy. I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot. Catch my nut. Don't you know why I'm so hot? Cause I am picky. Where everything is in a lock. Oh, me into your thing. I'll make you scream my name. Honey, holy, hole, set your goal. Make you wonder why I'm cold and distant. I'm cold and distant, yes I am. I'm PK, cause I'm all alone. You know that it's screaming. Yes, it's screaming, no, oh, oh, oh. I'm PK, cause I'm all alone. Maybe I'm alone, cause I'm a picky one. I got a lot of girls waiting for me not to call. Another Sunday morning on my own.
Porque, porque siempre dices lo mismo. Lo mismo, shines the sun.
Retour dans l'amphi pour la suite et fin de cette émission de partage culturel. Après la littérature, la peinture, le cinéma et la musique, on peut parler par exemple jeux vidéo. Alors à quoi jouez-vous ? Vas-y, Maëlle.
Récemment, j'ai découvert Hello Neighbor 2, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc c'est ouais, un jeu d'infiltration dans lequel en fait, on incarne un journaliste qui enquête sur son voisin. Donc la maison de son voisin elle est protégée par la police et on ne sait pas pourquoi. Mmh. Donc on doit rentrer dans la maison sans se faire choper par le policier. Et on découvre plein de choses comme des objets cachés derrière le mur, etc. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce jeu qui est un petit peu comme un escape game.
Super, merci. Merlin ?
Alors moi j'en ai deux, dont un qui est actuellement mon addiction du moment, c'est Civilization 6. Donc c'est un jeu de stratégie tour par tour, où okay. On joue une civilisation, donc la France, l'Allemagne, le Japon, etc., avec des dirigeants plus ou moins charismatiques. Mmh. Par exemple, pour la France, c'est Catherine de Médicis, mais je sais que sur le 5, c'était Napoléon.
Okay.
Pour l'Allemagne, il semble que c'est Barberousse. Et donc, il y a plusieurs fins possibles, avec par exemple des victoires par la guerre, la culture, les religions, et il y a même des défaites par les mêmes biais. C'est un jeu super, vraiment vachement complet. Il est dispo, je pense, sur à peu près toutes les plateformes.
Okay.
Et j'aimerais vous parler d'un jeu beaucoup plus connu, que j'adore, qui est mon jeu préféré, c'est Red Dead Redemption 2. Donc on y joue un hors-la-loi dans les années 1890, Arthur Morgan, qui cherche à fuir ses propres démons et les agents fédéraux parce qu'il a fait un braquage dans une ville quelques années auparavant.
Ouais.
C'est un jeu en monde ouvert vraiment magnifique, les graphismes sont super beaux. Et donc oui, c'est donc le meilleur jeu auquel j'ai joué, je pense.
Ok. Et Thomas, je crois que tu avais aussi un truc.
Oui, oui, oui. Un jeu, alors pas du tout connu, hein, parce que là, on va aller sur la NES, en ah, compte. Ouais. Et donc, je vais parler d'un jeu de mon enfance, Super Off-Road, sorti en 1989.
Okay.
Donc c'est très simple, en fait. Au départ, c'était un jeu d'arcade
okay.
et qui a été mis donc sur la console. Et en fait, c'est très simple. On prend le contrôle d'une petite voiture. C'est une vue aérienne. Mmh. Et en fait, on doit faire le tour du circuit
okay.
Le plus vite. Hein, et
faut ça, c'est être éclair, le premier. Ça.
Okay. Faut être le premier.
Okay.
Et en fait, ce que j'adorais, même à l'époque, encore une fois, c'est très important, c'est la musique. Encore
d'accord.
une fois, j'adore les musiques du jeu. Et elles sont pas mal, très variées. Et en plus, vous pouvez choisir la nationalité de votre pilote.
Wow.
Et si vous arrivez premier, vous avez carrément l'hymne national, les premières musiques, enfin les premières notes qui jouent.
Ok, voilà. Ça marche.
Trop cool.
Eh bien, merci beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on parle de culture Internet. Est-ce que vous connaissez des sites, des chaînes YouTube, des comptes Instagram qui valent le détour ? Maëlle ?
Oui, alors The Great Review. Désolé pour mon accent.
Souci.
Je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
C'est un YouTuber qui, sur sa chaîne, parle de jeux vidéo et d'e-sport. C'est le roi du storytelling gaming sur YouTube. Donc, en plus, étant un très grand fan d'e-sport et de jeux vidéo, j'aime beaucoup sa chaîne. Toutes ses vidéos sont superbes.
Ok. Merlin ?
Moi, j'aimerais vous parler d'un événement qui va se passer sur Twitch en juin. C'est la Kings World Cup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Étant un grand footeux, je me devais de parler de ça. C'est donc Gérard Piqué, un ancien défenseur central du FC Barcelone, un de mes joueurs préférés. Qui avait créé la Kings League, un truc comme ça. Et c'est donc un championnat de foot à 7 avec pas mal d'anciennes stars. Et donc là, la Kings World Cup, ça va être un championnat du monde de foot à 7 avec, par exemple, des anciennes stars du foot. Il y a déjà Zlatan Ibrahimovic qui a été annoncé. Et donc l'équipe de France, elle va être dirigée par le streamer Amine Mathieu,
okay.
qui est un streamer FR. Et donc c'est lui qui va choisir les joueurs et l'entraîneur. Ça va donc se passer en juin sur Twitch au Mexique.
Ça marche. Thomas, tu avais quelque chose ?
Oui, oui, oui. Alors, dans la même veine que Maël, vous avez Ego. Donc, okay. C'est une chaîne YouTube donc, qui fait aussi du storytelling. Très bien, parfait. Mm. Et ma recommandation du jour, c'est sur Insta. Et c'est un compte qui s'appelle Les Savoirs Inutiles.
Okay.
Alors, comme son nom l'indique.
C'est, tout est dans le nom.
Voilà. Tout okay. est dans le nom. Tous les deux jours, à peu près, vous avez une info comme ça qui est un peu inutile. Oui. Mais
qui ne vous sert à rien, mais vous mourrez moins con.
Déjà, et tu peux briller en société.
Waouh. Maxime, il me semble que tu avais un truc aussi.
Oui, oui. Alors moi, du coup, on a brièvement mentionné tout à l'heure, mais moi, ce serait la plateforme de streaming française Shadows qui est arrivée donc, pendant le confinement en 2020 et qui recense... à peu près 500 films en moyenne donc dans qui parlent de science-fiction, de thriller, de polar, de fantastique, d'horreur, un tout petit peu d'animation et aussi pas mal de courts-métrages. C'est une plateforme de streaming qui est vraiment sans prétention dans sa forme et comme dans son fond. Il se vend même plutôt comme un complément à Netflix pour ceux qui sont pas très satisfaits du catalogue de films d'horreur de Netflix. Ils se vendent comme ça. Ça va être beaucoup de films indés, pas mal de films indés. Ça va surtout être aussi, il va y avoir des vieux classiques, des films indés, etc. Il n'y a pas beaucoup de gros films, enfin, films à gros budget. Et surtout, la plateforme est extrêmement bien rangée en disant, voilà, dans quel pays, enfin, des films de quel pays d'origine, comment c'est rangé de A à Z, etc. Enfin, c'est extrêmement bien rangé. On peut faire sa liste, etc. C'est beaucoup plus facile que sur Netflix ou Disney+, où on est obligé de chercher, binge-watcher, etc. pour savoir quoi regarder.
Et c'est pas très cher en plus. C'est 5€
par mois.
4,99€
par mois, franchement, ça le fait.
Alors moi, juste très rapidement, je vais vous parler de Babor l'Elefant, qui est un youtubeur et humoriste. Voilà, il a un humour très noir, très cynique, très pince sans rire. Moi, j'aime beaucoup. Et il fait des enquêtes sur des communautés un peu sectaires. Là, par exemple, sa dernière vidéo qui est sortie, c'est sur les Starseed. Donc, des gens qui sont persuadés qu'ils sont possédés par des extraterrestres, qu'ils ont des fréquences vibratoires et tout, qui communiquent avec les aliens. C'est très drôle à regarder. Et aussi, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Tentation au supermarché ». C'est un bouquin, érotique, pas complètement mal. Con. C'est formidable. Voilà, je vous le conseille.
Ça s'appelle comment ?
Tentation au supermarché. Le mec, c'est Babor l'Elefant. Mais alors, du coup, le livre, il l'a écrit sous le pseudonyme de Alexandra Chevalier. Voilà.
Babor l'Elefant.
Ouais. C'est ça, c'est une parodie de Babar l'éléphant. Voilà. Son icône, c'est un dessin moche de Babar. Voilà. Alors enfin, est-ce qu'il y avait des références hors catégorie dont vous voudriez nous parler ? Oui, Merlin.
Moi, une très courte, mais qui me fait marrer, c'est le concept de micronation.
Oui.
Je sais pas si vous connaissez. Moi, franchement, j'adore ça. C'est donc un petit état qui n'existe pas vraiment, qui est reconnu par à peu près personne, à part peut-être par d'autres micronations. Et moi-même, j'ai ma propre micronation, le Boukistan.
Trop cool,
ouais.
D'accord, ok, je sais.
c'est donc littéralement la terre du Bouk ou la terre des Bouks. J'ai apporté le drapeau si vous voulez. C'est donc j'ai mon propre hymne national.
T'as acheté un morceau de terre
Non. Pour l'instant, on n'a pas de territoire. On cherche.
D'accord.
Mais on a toutes les idées. On a l'hymne national, la devise.
C'est super.
Les équipes de foot.
C'est quoi la devise?
Alors la devise, c'est devant la complexité du monde, le Bouk résout tout.
Ok. Tu fais partie de l'ONU et du coup ou pas?
Pas encore. On espère un jour.
Je vais simplement vous renvoyer à l'expo sur l'art abstrait, visible en ce moment au musée de TC. On a écouté d'ailleurs Françoise Froger-Jolivet dans l'émission d'hier, jeudi 21 mars, nous parler de cette exposition. Voilà, donc je vous y renvoie. Elle est super. Eh bien, merci à tous, Maxime, Marie, Merlin, Maël et Thomas, d'avoir participé à cette émission. Merci.
Merci à toi.
Merci à toi.
Et merci d'avoir suivi l'Amphi. La prochaine aura lieu le lundi 25 mars et on parlera de la semaine de la langue française et de la francophonie, ainsi que de l'expo qui l'accompagne, avec Pierre Salam de la Maison des Langues. Et ensuite, on recevra également l'association des étudiants d'histoire pour nous parler des 12 heures de l'histoire sur le thème de la musique. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.